Donc, nous avions la dernière fois fait une peinture de l'Ancien Testament pour vous mettre en situation d'un mariage tiré de la Bible. Et nous nous étions arrêtés, je crois, à Moïse, à la sortie du peuple hébreu de Terre Sainte. Et à ce moment-là, comme je vous l'avais dit par rapport à l'origine de la nature humaine, le peuple hébreu a ses 12 tribus. Moïse et Aaron sont à l'initiative du culte devant l'Arche d'Alliance, où est offert d'une manière toute particulière les sacrifices, dont l'anniversaire de la sortie d'Égypte par l'agneau pascal, l'agneau du passage de la terre d'esclavage à la terre de liberté. Et les animaux ne peuvent être offerts que devant l'Arche. C'est-à-dire que tout le peuple qui va se répartir dans la Terre Sainte, en étant enfin arrivé au bout de 40 ans de peine et de réparation, de manque de confiance en Dieu, de la part de ceux qui venaient de sortir d'Égypte et qui ont eu peur de rentrer dans la Terre Sainte avec les Philistins et les Cananéens qui étaient présents et qui étaient dans des villes redoutables, eh bien, au bout de ses 40 ans dans le désert, il passe le Jourdain. Moïse meurt sur le mont Nebo, en face du Jourdain, et ils entrent dans la Terre Sainte, et ils tombent sur Jéricho. La ville de Jéricho, donc, est une ville païenne. Il n'y a pas de monothéisme issu de la tradition adamique dans Terre Sainte depuis bien longtemps. Et les sacrifices humains sont d'une particulière cruauté, c'est-à-dire qu'on offre des bébés à Baal et aux différents dieux de ces villes. Et donc, dans toute l'histoire sainte, il est rappelé, et dans les psaumes de David, il est rappelé que c'est à cause de ces meurtres que, plus particulièrement, le peuple hébreu va recevoir cette terre en promesse. Il tourne autour de Jéricho avec l'Arche d'Alliance à 7 reprises et les murailles sont les trompettes de Jéricho, hein, les trompettes des sacerdotales de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron, et les murailles s'écroulent au bout du 7e tour, du 7e jour et du 7e tour, et la ville est prise par le peuple hébreu. Mais au bout d'un certain temps, donc, le peuple s'installe dans les différentes villes et voyant le système royal et l'autorité royale et les armées royales, ils veulent un roi. Ils demandent un roi. Et donc ce roi sera d'abord Saül de la tribu de Benjamin et ensuite le roi David, parce que Saül, lui, va déchoir de sa mission. Je rentre pas dans trop de détails. Et donc, le roi David, lui, va recevoir à nouveau les promesses qui ont été faites à Ève, plus particulièrement, la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent, et à Abraham, Isaac, Jacob, Israël, son surnom qui donnera le nom au peuple en entier. Et donc, David va avoir des visions, comme Abraham, sur le Messie, sur le Sauveur. Et là, les prophéties deviennent de plus en plus précises, puisqu'on sait qu'il sera un descendant de David, le Sauveur. Alors c'est un tout petit peuple, hein, le peuple hébreu. Encore maintenant, il y a peut-être 25 millions de Juifs, hein, parce qu'ils sont très observants à en matière de en ce qui concerne leur généalogie, ils veulent vraiment descendre d'une mère juive, ils sont très très comment dire très attentifs à leurs origines, et ce qui fait que comment les prières de David, qui sont très connues, qu'on appelle les psaumes, peuvent évoquer à ce point-là quelqu'un qui va régner et qui va être connu de tous les peuples. Enfin, c'est très prétentieux. Quand vous lisez les psaumes, vous dites, mais quelle ampleur dans ces prières de dire que tous les peuples, dans tous les pays du monde, connaîtront le Messie. Rien que cela, voyez-vous, c'est un miracle moral. C'est pas normal hein, qu'un tout petit peuple d'Orient puisse prétendre toucher tous les peuples du monde, de tous les continents. Et alors va se déployer des prophéties de plus en plus précises, et le roi David évoquera le fait que c'est un roi, donc il sera un sauveur, il sera un roi, mais il sera aussi un époux. Et le roi Salomon, lui, va obtenir une très grande sagesse à l'âge de 18 ans. Il est tout jeune roi et Dieu lui demande, à travers un prophète, qu'est-ce qu'il souhaite. Et il lui dit, j'ai déjà un certain pouvoir, mais la richesse et une armée ne me serviront à rien si je n'ai pas de la sagesse. Et Dieu lui dit, eh bien, tu auras une sagesse exceptionnelle, mais tu auras tout le reste. Tu auras la puissance et la prospérité. Alors, le roi Salomon, donc, c'est lui, et c'est à lui qu'on attribue le cœur même des grands livres sapientiaux, c'est-à-dire de la sagesse, de l'ecclésiastique, de l'ecclésiaste, du cantique des cantiques, et de... et il m'en manque un. Voilà. Et donc ces livres sapientiaux sont des livres de très grande mesure, et le livre des proverbes. C'est absolument extraordinaire, mais c'est cet homme plus particulièrement qui est à l'origine de ces livres. Il y a bien sûr des livres sapientiaux en Orient du type du livre des proverbes, mais si vous voulez, on venait de toute la région pour entendre Salomon. Surtout Salomon, lui, va connaître le pouvoir, la richesse, les plaisirs. Il va en abuser. On estime que Salomon s'est presque noyé, perdu dans ses, puisqu'il a eu 300 femmes et 700 concubines. Il avait un harem absolument impressionnant et l'or était compté comme les pierres, l'argent comme le sable et les reins, n'est-ce pas, le bronze comme l'eau. Et ce qui fait que Salomon va revenir de ce tourbillon, d'autant plus que, n'oubliez pas que ça fait peu de temps et qu'il y a encore beaucoup d'idolâtrie autour du peuple juif, et donc il va permettre à certaines de ses femmes de faire des sacrifices de ses enfants à la lune, à Astarté, à Baal. Donc, il y a un temple qui a été construit près de Jérusalem, on appelle le Mont du Scandale, où des enfants ont été du temps de Salomon. Hein. Et donc, tout cela se termine par une conversion de Salomon, qui regrette ce qu'il a fait, et qui, dans un poème absolument extraordinaire qu'on appelle le Cantique des Cantiques, qui est dans la Sainte Écriture, qui est dans la Bible, vous avez véritablement une déclaration d'amour, une recherche entre le fiancé et la fiancée qui est absolument exceptionnelle et qu'on ne peut comprendre véritablement que si on se trouve dans le cadre d'une révélation particulière de l'amour de Dieu. Or, nous sommes 1000 ans avant Jésus-Christ et... Le Cantique des Cantiques est très impressionnant, puisque c'est Dieu qui, en fait, est amoureux de l'âme humaine. Si on le lit avec ce filtre, je peux vous assurer qu'on comprend mieux pourquoi ce livre fait partie de la Sainte Écriture, le Cantique des Cantiques. Le temps passe et donc les Juifs se disputent, puisque à la mort de Salomon, Jéroboam, son fils, va promettre d'alourdir les impôts. Et donc vous avez 12 tribus qui vont suivre un général qui s'appelle Roboam. L'autre, c'est Jéroboam, mais je pense que c'est Roboam, le fils de Salomon, et Jéroboam, le général. Et ils vont se séparer. Il va y avoir donc le royaume légitime qui vient de David, Salomon, et qui, par contre, n'aura que deux petites tribus. La tribu de David, issue du fils de Jacob Israël, Judas, pas le Judas Iscariote, hein, qui était de la tribu de Dan, c'est la tribu de Judas, et qui donnera le nom de Juif. Judas donne Juif, J-U-I-F, au peuple du territoire où se trouve la capitale, Jérusalem, et où se trouve l'Arche d'Alliance. Ce qui fait que les 10 autres tribus qui se révoltent vont en Samarie, la ville de Samarie, faire un veau en or comme au pied du mont Sinaï. Donc ça veut dire que le souvenir de Moïse n'est pas si lointain. Et donc, en à peine 250 ans, 300 ans, on se retrouve à nouveau avec un culte idolâtrique, même dans le peuple hébreu. Donc ça, c'est dans les années 900. On remonte vers l'année 0. Hein. Et donc, vous avez, en à peine 200 ans, une dizaine de petits rois qui règnent en Samarie, qui sont tous des généraux qui succèdent les uns aux autres, et qui sont idolâtres. Ou avec une religion, avec un mélange d'un temple sans l'Arche d'Alliance, ce coffret en or où se trouvaient les 10 commandements, le bâton d'Aaron et un pot de manne, eh bien, pour ne pas qu'il y ait ce culte, on fait un culte dans le nord, et tout cela se termine avec beaucoup de cruauté, de meurtre. Et ce qui fait que vous avez le prophète Élie qui va s'affronter au roi de Samarie. Il va y avoir l'épisode du mont Carmel. Vous avez ensuite le prophète Élie ressuscitera le premier homme, le fils d'une veuve. Son disciple, le prophète Élisée, ressuscitera aussi un petit garçon, un jeune homme. C'est les deux résurrections de mort qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute une série de prophètes, dont Jérémie et Isaïe, Ézéchiel, qui vont dire « Le Sauveur va venir, ne vous inquiétez pas », alors que, si vous voulez, le peuple est divisé. Dans les années 700, le royaume du Nord qui s'appelait le royaume d'Israël par rapport au royaume de Juda, est anéanti par les troupes babyloniennes. Et ils partent en esclavage et c'est fini pour le royaume du Nord. C'est l'exil, le premier exil. Ensuite, les troupes descendent jusqu'à Jérusalem dans les années 500. Et les rois de Juda étaient plus ou moins fidèles et faisait aussi des actes idolâtriques, hein, ce qu'on appelle les hauts lieux, des petits bosquets sur des petites collines où on sacrifiait des enfants. Alors, vous ne pouvez pas comprendre la sévérité de l'Ancien Testament si vous ne comprenez pas l'environnement païen extrêmement dur qui les entoure, comme par exemple de mettre des enfants dans les fondations d'une maison, hein, pour porter chance. Un bébé vivant, bien sûr. murées, emmurées ou dans les fondations. Voyez. Et donc cette cruauté, Dieu lutte contre cette pente humaine mais qu'on retrouve actuellement dans l'avortement. Hein. Si vous voulez, c'est cliniquement propre, c'est fait au mieux, mais ce sont des... Comment dire, on profite aussi parfois d'une très grande faiblesse d'un couple, de l'homme, mais plus particulièrement de la femme, et on se retrouve avec un infanticide. En ce moment, aux États-Unis, c'est une véritable querelle pour ces élections, où le Parti démocrate, je ne sais pas ce qui les a piqués, ils le veulent même aller jusqu'à l'avortement, jusqu'au dernier jour. Hein. Le long terme, ça c'est sûr, parce qu'à 8 mois et 29 jours, il est grand l'embryon. Hein. Et donc, jusqu'à supprimer en droit des assurances la circonstance de la femme enceinte. Puisque de toute façon, du moment qu'il n'est pas sorti naturellement, on peut aller, on fait une piqûre dans le cerveau hein, pour provoquer sa mort, et on le sort mort, donc il est mort. Et donc, si vous voulez, cette violence, elle est dénoncée par Dieu dans les peuples idolâtres, autour de son peuple. Alors, les rois de Juda partent en exil. Vous avez les Babyloniens, les Assyriens, les Babyloniens, puis les Perses, les Iraniens actuels. Et c'est un couloir d'invasion. Hein. Et vous avez ensuite les Égyptiens liés aux Grecs, envahis par des troupes grecques, puisque dans les années 300, vous avez Alexandre, qui va aller jusqu'à l'Indus. Et donc, ce petit peuple qui est là survit à tous ces passages, à tous ces ravages. Ils sont revenus de Babylone au bout de 70 ans, dans les années... fin des années... 480, 560, toutes ces années-là. Et ils vont... souffrir énormément puisque le temple va être rasé. À cette époque-là, donc environ 600 ans avant Jésus-Christ, vous avez le prophète Jérémie qui fait cacher l'arche. On en avait parlé la dernière fois avec le film Indiana Jones et compagnie sur l'arche perdue. Et donc, environ 250 ans avant Jésus-Christ, la royauté est quasiment perdue parce que les invasions ont été d'une telle violence que ce sont les Grecs égyptiens qui dominent le pays. Et finalement, comme ils appellent à l'aide les Romains, dont ils ont entendu parler pour leur politique d'alliance avec des nations, pour ensuite économiquement faire du commerce, mais aussi les protéger par leur armée exceptionnelle, eh bien, les dignitaires juifs finissent par être envahis par l'armée romaine, qui les protège de manière définitive. Et donc, les juifs sont très humiliés, ils se souviennent de leur passé glorieux, de leur roi, de leurs deux royaumes, qui se sont effondrés dans les années 700, puis dans les années 500, et ils sont brisés. Un roi non-juif, ne venant pas de la tribu de Juda, selon la prophétie de Jacob Israël, va être mis sur le trône, c'est Hérode le Grand. Il est iduméen. Or, les prêtres du temple se souviennent de toutes ces prophéties. On a reconstruit un petit temple, le temple de Salomon avait été rasé par les invasions. Ils reviennent grâce à la mansuétude des Perses, donc dans les années 500, 70 ans après les années 500 d'invasion, et ils reconstruisent un petit temple mignon, mais pas aussi beau que celui de Salomon. Et Hérode le Grand, pour plaire à son nouveau peuple, va embellir ce temple. le renforcer. Mais c'est le petit temple du retour d'exil qui est rehaussé. Vous voyez ? Et un prophète avait dit d'ailleurs que le Sauveur, le Messie, entrerait dans ce temple. Et qu'il ne fallait pas être trop triste de la... que ce temple soit moins beau que le premier, parce que la gloire du Seigneur se manifesterait. Et voilà, des temps très ternes et pleins d'attentes. Il y avait eu aussi la prophétie de Daniel, qui alors qu'il était en exil à Babylone, avait vu les jours du Sauveur, à force de le réclamer. 70 semaines d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un temple où il n'y a plus l'Arche d'Alliance. Les Romains surveillent le culte unique. Le peuple s'est réconcilié par la force des choses. Les 12 tribus sont ensemble. Et chaque année, pour les grandes fêtes, et plus particulièrement pour la Pâque, on vient à Jérusalem et on offre un petit agneau d'un an tout blanc qu'on mange avec des herbes amères debout. Avec le Benjamin qui demande au père pourquoi on est en train de manger debout. Normalement, un bateau à la main, comme pour partir. Eh bien, parce que nos ancêtres sont partis d'Égypte. Et donc, dans la tribu sacerdotale des Lévites, la famille, les descendants de la famille d'Aaron, toujours présents, vont offrir les animaux, offrir la farine, offrir l'huile, offrir les pains, et une fois par an, ils vont dans le Saint des Saints, qui est fermé par un grand rideau, et ils aspergent du sang de l'agneau, mais il n'y a rien. Mais c'est le lieu mystique de la présence de Dieu. Alors, ils sont tristes, et vous avez un prêtre qui s'appelle Zacharie, qui, c'est son tour d'offrir la prière du soir, les vêpres. Et c'est le soir, ils offraient de l'encens. L'encens, c'est de la résine, et dans cette résine d'arbre, n'est-ce pas, on piège des plantes, des parfums, et quand ça brûle, tous ces parfums sont libérés. Et donc, ils s'approchent du Saint des Saints, sans y entrer, et dans le Saint, avec la menorah, le chandelier en or à 7 branches, avec des petits réservoirs d'huile qui brûlent en permanence devant le Saint des Saints, avec une petite table où il y a 12 pains pour les 12 tribus d'Israël qui sont déposés chaque jour et qui sont mangés chaque soir, et là vous avez l'autel des parfums, où avec des charbons, il verse l'encens. Et là lui apparaît l'archange Gabriel. Alors je vous ai fait vite, mais sachez que dans l'histoire biblique, vous avez à un moment donné, Jérusalem a été assiégée par les Assyriens, par une armée de près de 200 000 hommes, parce qu'ils allaient jusqu'en Égypte, ils s'embêtaient pas. Et là, vous avez Jérusalem qui allait se rendre, assiégée. Et puis vous avez un petit prophète qui dit « Non, ne vous rendez pas, demain vous verrez la gloire du Seigneur. » C'est un épisode qui est dans la Bible, très surnaturel, mais dont on parle peu. Et le lendemain, grand silence autour de Jérusalem et des tentes de l'armée qui encerclait Jérusalem. Au bout d'un quelques temps, on envoie quelqu'un. Ils passent de tente en tente. Ils sont tous morts pendant la nuit. Alors vous allez me dire, il y a eu une mort subite. Je sais pas, ils ont tous attrapé le coronavirus. Et ils sont morts en une heure. Ben non, non, non. C'est l'ange de la Pâque qui est passé à nouveau. Il y a environ 180 000 soldats qui sont morts dans la nuit. Et du coup, les Assyriens ne sont pas revenus pendant des décennies, hein, parce qu'ils ont été piqués. Hein. Oh là là, c'est quoi ce peuple ? Et donc, à part les deux résurrections dont je vous ai parlé, vous avez des... le prophète Jérémie, lui, avait simplement annoncé la défaite des armées juives, des armées d'Israël. C'est les Jérémiades, hein, les lamentations de Jérémie. Mais il promet qu'il va y avoir le Sauveur qui viendra. Le prophète Élie, lui, n'avait pas fait que ressusciter un mort, mais lorsque le roi d'Israël, je crois, est venu le chercher pour le mettre en prison et le punir d'avoir fait mourir 420 prêtres de Baal, hein, qui étaient des assassins, hein. Eh bien, Élie se met en prière et vous avez de la foudre qui tombe sur l'escouade de soldats qui vient le chercher. À deux reprises. La troisième escouade, le chef de l'escadron supplie Élie de ne pas les tuer, de ne pas demander cette punition divine. Alors vous allez me dire, c'est vraiment très surnaturel tout ça, mais est-ce que c'est vrai ? Mais c'est comme le passage de la mer Rouge. Et lorsque le temple de Salomon avait été inauguré, la nuée du désert avait réapparu au-dessus du temple. Et bien là, à un moment donné, vous aviez un général babylonien ou assyrien qui était venu. Ils étaient venus jusqu'au temple, là ils avaient... Les Juifs n'avaient pas pu résister. Et ils s'étaient postés devant le temple et en disant, voyez ce bâtiment, nous allons le raser, nous allons faire ce qu'on veut. Votre Dieu est impuissant vis-à-vis de nous. Et là, vous avez deux anges qui apparaissent. Ce sont les récits bibliques, hein, c'est joli. Hein, c'est... Deux anges d'une stature d'environ 4-5 mètres, hein, des hommes un peu surnaturels. Hein. Des apparences humaines. Ils prennent le soldat, ils le jettent en l'air. On voit, les gens sont là, ils voient le bonhomme et il retombe. Et ils le jettent encore et ils le battent et tout ça. Il est à un moment donné, le pauvre il est disloqué, n'est-ce pas ? Et il est mort. Et vous avez le grand prêtre du temple là qui se met à genoux et qui dit : Seigneur, si on a traité ainsi leur général, leur roi va nous envoyer des armées et des armées et des armées supplémentaires. Et là, vous avez les deux anges qui sont comme ça, et un des deux remet le général debout, et il ressuscite. Et il lui dit, ne reviens jamais. Et l'autre, il part à reculons, et à nouveau, pendant plusieurs années, le peuple juif n'a pas eu d'invasion assyrienne. Alors, si vous voulez... Comment vous dire le surnaturel de toutes ces choses ? Eh bien, dans l'histoire de l'Église, hein, vous avez Saint-Vincent Ferrier, lui, qui était un jeune homme à l'époque, qui n'était pas encore moine dominicain, il a ressuscité une vingtaine de morts, dont certains, au moins une ou deux, étaient déjà au cimetière. Donc il a fait ouvrir la tombe. Il a demandé à Dieu de ressusciter la personne, elle est sortie et elle est rentrée dans l'église pour assister au sermon. Voyez. Du surnaturel, vous en avez l'image du Padre Pio, qui lui avait les stigmates du Christ. Hein, on lui demandait pourquoi il ne les avait pas au milieu des mains et pourquoi il ne les avait pas à l'endroit des clous qu'on a retrouvés sur le sphère de Turin. Eh bien, il a expliqué tout bonnement que le Seigneur ne voulait pas que les stigmatisés souffrent trop, parce que vous avez tous les nerfs qui sont là. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, sur le sphère de Turin, on ne voit que 4 doigts. Parce que lorsque vous enfoncez un clou ici, vous avez les nerfs qui se rompent, et vous avez un arc réflexe du pouce qui se contracte vers l'intérieur. Et là, vous avez un trou naturel, et c'est là qu'on mettait les clous, parce que sinon, si vous voulez, si c'était au milieu de la main, ça se déchirerait. C'est amusant de voir que les peintures chrétiennes ont fini par toujours mettre les clous au milieu des mains, alors que c'est historiquement faux. Mais symboliquement, c'est la main percée, si vous voulez. Mais sur le sphère de Turin, qu'on photographie au XIXe siècle, on découvre en négatif inversé le crucifié. C'est un tissu de 4 mètres. Notre Seigneur faisait un peu plus d'1,80 m. Et on voit de la plante des pieds et de tout le tour une photographie, en 3 dimensions d'ailleurs, du corps du Christ. Et des miracles de multiplication de nourriture, le prophète Élisée en avait fait. De l'huile, vous voyez, vous aviez une fiole d'huile qui ne se vidait jamais, ou un petit pot de farine qui ne se vidait jamais, eh bien, dans les siècles de chrétienté, vous avez eu ces phénomènes de multiplication de nourriture, dont je vous donnerai quelques petits exemples. Le Saint Curé d'Ars, dans le diocèse de Lyon, lui, à 2 reprises dans sa vie, par sa prière, des sacs de farine ont été multipliés dans un grenier, alors qu'il y avait une disette, qu'il n'y avait plus de farine. Le grenier a été retrouvé rempli de sacs de farine. Et puis aussi, à sa prière, vous avez le boulanger, il n'y avait qu'une petite boule de pétrin pour 3 pains. Et à chaque fois que le boulanger prenait une boule et le mettait dans le four, le pétrin ne diminuait pas. Alors il en a fait une cinquantaine. Mais à partir de... Alors, et pour la petite histoire, vous avez Saint Jean Bosco qui avait oublié de prendre des petites noisettes pour une sortie avec les enfants qui étaient une centaine. Ils étaient partis à la campagne et pour le goûter, simplement, ils avaient qu'un sac de noisettes pour une centaine d'enfants. Eh bien, le sacristain, les frères qui étaient avec Saint Jean Bosco, à chaque fois qu'il donnait une poignée de noisettes aux enfants, eh bien, le sac ne se vidait pas. Et à Turin, il y a 3-4 noisettes du miracle des noisettes. Qui sont là. Vous avez aussi le Saint Jean Bosco et d'autres saints qui avaient des extases et qui montaient dans les airs. Le padre Pio, qui est mort en 1968, avait ce genre d'extase et ce genre de lévitation. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans d'autres religions, peut-être que d'après Tintin, au Tibet, il y a des moines tibétains qui ont des lévitations. Oui, mais c'est par des invocations, avec des inventations d'esprit. Et ce sont des cultes démoniaques. Et si un jour vous voulez connaître véritablement le bouddhisme tibétain, il faut que vous alliez au musée qui se trouve près du Trocadéro, le musée Guimet, le musée Guimet, parce que vous avez des représentations tibétaines de démons absolument extraordinaires. Hein. C'est exactement l'iconographie occidentale, on se demande comment, où ils ont vu les mêmes, ou alors les démons manquent d'imagination et donc ils se sont apparus sous les mêmes formes. Vous avez des mantras, des tableaux pour les mantras qui sont avec des monstres qui déchirent, qui mangent des chairs et tout ça. Enfin, vous dites, qu'est-ce qu'ils font exactement dans leur monastère? Voilà. Il y a des choses bizarres. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que nous arrivons à l'oxygène, c'est-à-dire le Christ.